Nous allons ouvrir la deuxième table ronde. Je vais demander à Anne Rasmussen et Bertrand Hervieux de venir nous rejoindre. Alain reste avec moi pour mener l'entretien. Anne Rasmussen est professeure d'histoire des sciences à Strasbourg. Elle est spécialiste d'histoire de la pensée et particulièrement du rapport santé et société. Bertrand Hervieux est sociologue, ancien directeur de recherche au CNRS, conseiller de plusieurs cabinets du ministère de l'Agriculture, ancien président de l'INRA et a publié dernièrement, après beaucoup d'autres ouvrages, une sociologie des mondes agricoles chez Armand Collin. Anne Rasmussen, je vous poserai la première question quand vous aurez avaler quelques gorgées d'eau tranquillement. Nous allons discuter des questions de médecine et de santé et d'agronomie, qui sont deux des thèmes particulièrement traités dans ce colloque de 1956. Bertrand Hervieux nous dira qu'il n'était pas forcément donné, ni très courant, pas forcément attendu, mais nécessaire à cette période de le faire. Et donc, Anne Rasmussen, ma première question est, pouvez-vous nous dire quelle était la situation de la recherche et de l'enseignement dans le domaine de la médecine et plus largement de la santé en 1956, quand ce colloque prend corps tel qu'on vient de nous le décrire?
Oui, alors je voudrais mettre en valeur peut-être trois points. Le premier sur cette situation 1956, c'est qu'au colloque de Caen, quelle que soit la diversité, comme on l'a déjà évoqué, diversité scientifique et professionnelle, du monde de la recherche médicale qui est présent, il y a vraiment un point de vue tout à fait unanime qui s'exprime, qui est celui des doléances sur les insuffisances de la recherche médicale française d'après-guerre, hein, sur son retard en comparaison en particulier des résultats spectaculaires qui apparaissent comme étant ceux de la recherche britannique, hein, pensons au programme pénicilline par exemple pendant la guerre, ou à la recherche américaine, doléances sur le manque crucial de moyens qui est qualifié par beaucoup à Caen de scandaleux, hein, en matière de recherche médicale, doléances aussi sur l'inexistence de la recherche en milieu hospitalier. Alors, on peut dire que, de fait, hein, dans les années 50, la recherche médicale publique est très faiblement dotée, que ce soit dans le cadre du CNRS, où il y a d'ailleurs peu de recherche médicale, dans le cadre de l'Institut national d'hygiène, qui est une institution qui a été créée sous Vichy, mais qui s'est surtout préoccupée de santé publique, et en matière de recherche médicale, plutôt de physique médicale. Alors, par ailleurs, vous savez, il y avait le pôle très fort de l'Institut Pasteur, mais qui n'est pas stricto sensu pôle de recherche médicale, et qui lui-même avait subi des coupes dans ses crédits publics dans les années 50. Donc, il y a vraiment une unanimité la nécessité absolue, c'est la formule de Jean Dossé, hein, nécessité absolue d'organisation de la recherche médicale et de la réforme de l'enseignement supérieur médical. Alors, cet impératif catégorique assigné à la réforme, on l'a déjà dit, il est une priorité du colloque de Caen, hein, donc pour la recherche médicale. C'est un des 12 points déjà évoqués, c'est le thème de plusieurs des rapports qui sont produits pour le colloque, et notamment sous la houlette de médecins, je pense en particulier à Jean Dossé, qui se présentait lui-même comme un jeune turc mendéciste. Hein. Il est spécialiste de transfusion sanguine, mais il est à l'époque aussi au cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Autre jeune turc, René Fauvert, par ailleurs Robert Debré, grand animateur de Caen, en tout cas des rapports de Caen. Ils font aussi entendre leur point de vue des médecins comme Miliez, comme Minkowski, comme Tubiana, comme Beaulieu, des biologistes comme Jacques Monod, André Lvov, François Jacob. Alors, cependant, je voudrais souligner que le colloque de Caen n'est pas tout à fait isolé, hein, dans cette volonté de réforme de la recherche médicale. C'est une sorte de point d'orgue, de toute une série d'initiatives qui ont débuté dès la libération. Et en la matière, il faut vraiment souligner l'action de Robert Debré, qui était membre du conseil médical de la Résistance et qui dirigeait après-guerre le service de pédiatrie de l'hôpital des enfants malades, et qui, dès 1944, a élaboré un plan qu'il appelle de rénovation nationale de la médecine. Alors, par ailleurs, au cours des années 50, s'affirme une nouvelle génération de cliniciens, par exemple Jean Burger, Jean Bernard, René Fauvert, qui souhaitent mettre la recherche médicale au diapason de cette nouvelle biomédecine dont certains ont pu apprécier les performances aux États-Unis. Donc cette importance à une recherche fondée sur la science, je crois que c'est vraiment ça le leitmotiv, inspire dans les années 50 donc, le lancement par Jean Burger d'une fondation pour la recherche médicale, qui existe toujours aujourd'hui, et qui a pour but de fournir des bourses de recherche à des jeunes médecins. Par ailleurs, en 1954, Raoul Kourilski lance l'association Claude Bernard, qui est destinée à introduire des laboratoires dans les services hospitaliers, ce qui sera entamé à partir de 1956 jusqu'à la fin de la décennie. Par exemple, le laboratoire d'hématologie de Jean Bernard à Saint-Louis, celui de néphrologie de Jean Burger à Necker, celui de Bernard Alperne en allergologie à Brousset, etc. Ça, c'est en accord avec l'assistance publique de Paris. Alors, troisième, dernier point, à quand même, quels sont les enjeux qui sont exprimés face à ces doléances et cette suite d'initiatives déjà lancées depuis 1944. Et de fait, les enjeux de Caen vont former, comme on l'a déjà dit, ce cahier des charges pour la décennie suivante. Alors, il me semble qu'il y a un enjeu qu'on pourrait qualifier d'épistémologique, au sens où est affirmée la nécessaire création d'unités de recherche qui groupent des chercheurs de disciplines différentes, en liaison étroite avec les formations hospitalières et en lien avec la culture clinique. Robert Debré dit qu'il faut changer le centre de gravité de l'enseignement médical en mettant un terme à ce qu'il appelle la dualité absurde entre le corps hospitalier et le personnel universitaire, mettre un terme aussi à la concurrence entre formation hospitalière et facultaire. Le professeur doit passer l'essentiel de son temps à l'hôpital et au laboratoire, un fameux plein temps hospitalier. Il y a un enjeu économique, je termine juste, un enjeu économique sur le besoin de ressources permanentes. Il faut des crédits publics sur le modèle anglais, British Medical Council, mais aussi des crédits privés sur le modèle américain et coopération industrie recherche médicale comme en Allemagne ou en Suisse. Et enfin, des enjeux organisationnels et professionnels de réforme des carrières.
Alors, ce vaste cahier des charges qui constituait les débats et le point 8, cette adaptation des institutions aux exigences de la science médicale moderne, comment les choses se passent dans les années qui suivent ?
Alors, on peut dire que les acteurs de Caen sont vraiment à la manœuvre dans la décennie qui suit et que l'esprit de Caen va être en grande partie traduit dans les réformes qui ont effectivement vu le jour. Donc on a déjà évoqué quelques points. En particulier, Jean Dosset participe beaucoup à la constitution de ce conseil interministériel dont il a été question, ministère de la Santé, de l'Éducation nationale, du Travail, dont Robert Debré anime les débats. Robert Debré, c'est vraiment, à 76 ans, le grand aîné qui va être le maître d'œuvre de cette réorganisation. Alors, cette réforme, on l'a dit également, prend corps avec la politique de recherche qui est menée après le retour du général de Gaulle au pouvoir. Donc la fameuse ordonnance, le dernier jour des pouvoirs spéciaux dont il dispose, le 30 décembre 1958, donc, qui crée les centres hospitalo-universitaires, les CHU, qui fusionne la faculté et la clinique au sein de ces CHU, qui installe un corps de professeurs hospitaliers universitaires plein temps, dont la tâche est d'assurer cette triple fonction, en théorie en tout cas, de soins, d'enseignement et de recherche. On a parlé de la DGRST qui permet de lancer des actions concertées. sur les 9 premières actions concertées lancées par la DGRST, 6 concernent la médecine et la biologie, hein, en particulier cancer et hématologie, cerveau, génétique et la fameuse biologie moléculaire qui est confiée à Jacques Monod. Et on a déjà parlé du prix Nobel qui suivra. En termes institutionnels, l'Institut national d'hygiène qui n'a pas vraiment répondu aux attentes et repensé, et finalement, à l'initiative du ministre de la Santé d'alors, Raymond Marcellin, c'est l'INSERM qui va être créé en 1964 et qui résulte de la fusion de cet ancien institut, enfin, qui datait de Vichy, et de cette association Claude Bernard qui avait vu le jour dans les années 50. Dans les années 50. Alors, je voudrais insister sur un point encore, sur le fait que en termes scientifiques, il me semble que cette réorganisation permet une mutation de grande ampleur, c'est la rencontre de la recherche médicale et de la biologie moléculaire. Le cancérologue Georges Maté va jouer un rôle important dans les années suivantes, dans le nouvel organisme, qui va être très largement abondé dans le cadre du cinquième plan, avec tout un programme de construction de laboratoires, notamment en province, des politiques de conventionnement avec les centres hospitaliers, etc. Donc vraiment une grande politique qui voit le jour à travers l'INSERM. Alors un tout dernier mot pour insister sur, malgré tout, comme l'a fait déjà Vincent Duclerc, il ne faut pas occulter les réticences, les résistances qui ont les limites à ce mouvement qui a été présenté comme vraiment étant de modernisation de la recherche médicale. Alors, des résistances parce que les transformations, en particulier la réforme des CHU, ne s'est pas faite sans résistance, une grande réserve du corps professoral dans les facultés de médecine, crainte de la fonctionnarisation, crainte de perte de revenus associée au plein temps hospitalier. Et d'autre part, ce qui me semble peut-être plus important, c'est la persistance d'une dualité entre les cliniciens et les chercheurs. Donc c'est une dualité qui reste souvent structurante du point de vue des cultures professionnelles, des enjeux, mais plus profondément aussi des conceptions même de la recherche. Il y a une sorte d'incompréhension qui se manifeste parfois et durablement entre les biologistes, par exemple des pasteuriens qui veulent, comme André Lvoff, démédicaliser la recherche, c'est son terme, et des cliniciens qui, par exemple comme Jean Bernard, craignent plutôt un privilège exclusif accordé aux sciences fondamentale. On peut souligner quand même pour finir que cette relation entre laboratoire et clinique va rester une question absolument clé pour savoir comment on transfère des connaissances récentes vers le lit du malade.
Merci. Bertrand Hervieux, pourquoi la recherche en agronomie est-elle présente dans le colloque de Caen et comment a-t-elle été traitée ?
Oui, je retiendrai trois raisons pour lesquelles on trouve la recherche agronomique au colloque de Caen, ce qui peut paraître assez surprenant parce que, comme ça a été souligné précédemment, mis à part la recherche médicale, les débats étaient vraiment des débats transversaux sur le développement de la recherche en France. Pourquoi la recherche agronomique ? Alors, premièrement, un élément de contexte qui est largement partagé dans la société française et chez les politiques, à savoir que la France a toujours un immense retard en termes de production agricole. Nous sommes encore à presque un tiers de population active agricole et pour autant la France n'assure pas sa couverture alimentaire 10 ans après la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a une vraie préoccupation qui se traduit d'ailleurs, et Pierre Mendès France y est très sensible, par un taux de rachitisme dans la population enfantine qui est très important. Tout d'ailleurs, on s'en souvient, enfin en tout cas, les écoliers qui, comme moi, avaient 8 ans en 56 se souviennent du verre de lait à la récréation du matin, parce que Mendès France était soucieux de cette lutte contre le rachitisme à travers la distribution des produits lactés. Donc il y a une ambiance autour de ce retard, de cette couverture alimentaire, malgré la création de l'INRA en 46 par le ministre socialiste de l'époque, un jeune finistérien, François Tanguy Prigent, premier ministre de l'Agriculture de la Libération, qui crée l'INRA juste avant de partir en avril 1946, tout petit organisme au sein du ministère de l'Agriculture, créé à partir de quelques centres techniques. Mais 10 ans après, disons que les choses n'ont pas décollé et que la création de cet organisme n'a pas porté les fruits attendus. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, un certain nombre d'agronomes, globalement, en gros, les enseignants de l'Institut national agronomique de Paris, dont René Dumont, qui joue un rôle très très important à cette époque-là, ont insisté au cours du premier, du second et du troisième plan sur la nécessité de moderniser l'agriculture française et de faire en sorte que celle-ci acquiert des gains de productivité, productivité des sols, productivité des animaux, productivité du travail, avec notamment à travers la mécanisation et les engrais. Et il y a une très forte déception, contrairement à ce qu'avait prévu le plan Marshall et le premier plan, en 1956, il y a moitié moins de tracteurs que ce qui était escompté. Donc tout ça stagne. Et Dumont, avec quelques autres, sont allés aux États-Unis, sont tout à fait impressionnés par le système de recherche agronomique américain, notamment par les Land Grant University, qui assure une véritable interface entre le développement des connaissances et le développement de l'agriculture. Et il y a là une impatience qui est portée par cet ensemble de personnalités qui joue un rôle très très important et qui place l'agronomie, la recherche agronomique dans le débat, dans l'agenda politique. Enfin, troisième raison, elle est plus local, peut-être plus anecdotique, mais je pense qu'elle est extrêmement importante. Pierre Mendès-France avait choisi en 54 comme suppléant un agriculteur dans la circonscription de Louviers, c'était Gilbert Martin. Gilbert Martin donc était député en 56. Cette personnalité de Gilbert Martin est tout à fait intéressante, c'est une personnalité assez atypique, même tout à fait atypique dans le monde agricole. Ce n'est pas du tout un fils d'agriculteur, c'est un fils de chirurgien, un petit-fils d'instituteur. Ce chirurgien rouennais, Albert Martin, avait acheté des terres dans le Roumois et son fils décide non pas d'embrasser la carrière médicale, mais de cultiver lui-même cette exploitation agricole dans le Roumois. Et il est absolument passionné de science, de progrès technique, et il est un des grands leaders de cette jeune génération d'agriculteurs de l'après-Seconde Guerre mondiale qui croit au progrès, qui croit en la science. Et c'est intéressant de noter que c'est lui que Gilbert Martin, donc c'est lui que Pierre Mendès-France choisit comme suppléant. Et il est un vrai relais dans la réflexion de Pierre Mendès-France sur les questions agricoles. Il est présent, Gilbert Martin est présent au colloque de Caen.
Je note juste, avant de poser une autre question, que dans vos deux interventions, vous avez rappelé combien toutes ces réflexions s'articulent aussi dans un moment où, effectivement, la planification accompagne cette modernisation de la société et de son économie, et donc aussi de sa recherche, qui est une dimension évidemment importante. Dans les points, donc un des 12 points du colloque concerne les questions agronomiques. On y parle aussi d'ailleurs de l'enjeu interministériel pour les questions agronomiques. Mais finalement, qu'advient-il après Caen, là encore, pour l'agronomie? Est-ce que ce qu'on a décrit pour le monde médical peut être rapproché de la situation de l'évolution de la recherche en agronomie après Caen?
Oui, alors effectivement... Donc la question de la recherche agronomique est fortement traitée à Caen. Il y a deux rapports sur la recherche agronomique, l'un sur enseignement supérieur et formation des chercheurs dans le domaine agronomique et l'autre sur l'organisation de la recherche agronomique. Alors, et puis dans les recommandations, un point sur les 12 points, un point sur ce qui s'appelle l'expansion de la recherche agronomique. Je voudrais souligner à ce stade un point qui me paraît très très important, à savoir la tension qui existe autour de cette émergence d'une recherche agronomique qui n'est pas bien située institutionnellement. Je m'explique. Cette recherche agronomique, elle naît au sein du ministère de l'Agriculture, et ce qui crée une énorme tension à la fois avec le CNRS, qui considère que cette dimension de recherche pourrait être prise en compte par le CNRS, et s'il s'agit de recherche scientifique, pourquoi ne pas la positionner au CNRS, et de l'autre côté, au sein du ministère de l'Agriculture, par les professeurs d'agriculture, et qui voient d'un très mauvais œil des scientifiques qui vont élaborer les références et qui vont les diffuser et qui d'une certaine façon se sentent complètement délégitimés. Donc il y a vraiment une tension forte qui se lève, et le colloque de 56 est très important parce qu'il, en quelque sorte, assoit définitivement cet organisme comme organisme autonome, alors qui dépend du ministère de l'Agriculture, dont les crédits dépendent du ministère de l'Agriculture et dont les statuts des chercheurs dépendent et sont calqués sur ceux du ministère de l'Agriculture, pour une raison très importante, c'est que se joue là une compétition très forte entre le corps du génie rural qui essaye de récupérer les majors de l'agro à leur sortie pour les faire rentrer dans le corps et la direction de l'INRA qui fait de l'amphirotape tous les ans à l'INRA, mais qui est très très à l'agro et qui se révèle très attractif car ils ont réussi à faire créer un statut d'assistant de recherche qui permet de recruter les étudiants juste à la sortie de l'agro. Et donc on a pendant 10 ans, Jacques Poli en est un très bon exemple, tous les majors de l'agro partent à l'INRA. Donc il y a là une concurrence. Alors, quelle est la suite? Je crois qu'on peut souligner plusieurs choses. La première, c'est que la DGRST dont on a parlé, en quelque sorte légitime, dans la foulée du colloque de Caen, confère à l'INRA une vraie légitimité scientifique. Et de ce point de vue-là, la personnalité de Pigagnol est importante à souligner. Il est très sensible à cette question et il accorde beaucoup d'attention et beaucoup d'importance à cette reconnaissance de l'INRA dans ce qu'on peut appeler la communauté scientifique. Ça, c'est un point important, avec des personnalités comme Charles Thibault, Jean Bustaret, et on retrouve ces personnalités dans les comités. Deuxième élément très important, dans la DGRST met en place, donc, comme cela a été souligné, des actions concertées. Et trois des grandes actions concertées de la première DGRST concernent aussi l'INRA. Alors, l'INRA n'y est pas forcément massivement présent et ne bénéficie pas plus que d'autres de ces crédits, mais là encore, non seulement il conquiert une légitimité, mais structure très très fortement son activité scientifique autour des trois premières actions concertées que sont les applications de la génétique, la biologie moléculaire et les nutritions animales et humaines. Et autour de ces trois actions concertées, on voit une structuration des programmes de l'INRA qui va vraiment perdurer. Et on peut dire que vraiment aussi bien dans le domaine animal que dans le domaine végétal, le développement des recherches en génétique à l'INRA va se développer et ça va être la discipline reine de cette période, et avec des résultats tout à fait spectaculaires. On a quand même l'habitude de dire, et c'est vrai, qu'entre ces années 1960 et 2000, de 60 à 2000, les rendements de la ferme France ont augmenté d'un quintal à l'hectare et par an pendant 40 ans. Et un des grands problèmes qui est aujourd'hui posé en matière de connaissances, c'est pourquoi les rendements maintenant stagnent, voire régressent depuis une dizaine d'années.
Merci à vous, Bertrand Hervieux. Anne Rasmussen, en parallèle aux réformes institutionnelles dont on vient de parler, quelle réorganisation dans l'approche de la connaissance dans ce même moment ?
Ce serait un vaste
sujet. Bien sûr, exercice sujet, difficile en quelques minutes, mais néanmoins.
Vous mettez l'accent sur un point qui me semble important de souligner, c'est, la convergence entre des réorganisations institutionnelles, hein, vraiment le fait de réorganiser les structures mêmes de la recherche, et les mutations scientifiques. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre, et l'un accompagne l'autre. Pour la recherche médicale et le vivant, il est clair que ces années sont le moment d'une importance nouvelle qui est accordée aux sciences de la vie, hein, comme on dirait aujourd'hui, hein, d'une certaine manière, ça succède à la primauté de la physique, ou en tout cas ça accompagne un véritable changement à la DGRST, hein, on l'a dit, c'est sous la conduite d'un physicien, mais il y a une vraie priorité accordée aux sciences du vivant, hein, c'est la moitié des budgets, et on peut dire que de ce point de vue, la recherche médicale devient un peu comme auparavant la physique, une sorte de big science, c'est-à-dire que nécessite de gros moyens, une industrialisation. Elle est au cœur d'une compétition internationale avec des enjeux économiques, sociaux, voire politiques. Donc ça, il me semble que c'est un enjeu. D'autre part, on a souligné l'importance pour ces années de la biologie moléculaire. Et la biologie moléculaire, elle va permettre aussi un nouveau regard parce que elle semble donner à voir une sorte de réunification du paysage médical qui semblait éclater entre différentes branches de la pratique, des pathologies, et la biologie moléculaire semble former une unification presque philosophique de ces branches. En même temps, par réaction, elle va aussi, en retour, hein, faire que on va craindre que la compréhension des mécanismes de la biologie l'emporte sur la clinique. Et c'est un reproche qui est fait, une vision qui peut sembler réductionniste de la vision des sciences de la vie et donc par extension du malade. Alors, un tout petit point conclusif, je voulais souligner, mais je pense qu'il va en être question ensuite, c'est, on a dit qu'il n'y avait pas vraiment d'étrangers, le point de vue étranger n'était pas représenté à Caen, mais pour la recherche médicale, la référence étrangère est constante, hein, et en particulier, la référence américaine. Donc, c'est, il me semble important à souligner. Et enfin, là, c'est plutôt une petite note de bas de page. Je me permets d'évoquer un site si vous êtes intéressé par aller plus loin sur ces questions et notamment entendre la voix des acteurs, en tout cas leurs témoignages en matière de recherche médicale. Un collègue historien des sciences, Jean-François Picard, qui a travaillé beaucoup sur l'histoire du CNRS, anime un site web sur l'histoire de la recherche médicale qui est très riche, notamment sur Caen, sur cette période ses acteurs. Voilà.
Avant de poser une dernière question à Bertrand Hervieux, je ne peux pas m'empêcher, lorsqu'il faisait et rappelait l'intérêt de Pierre Pigagnol, le premier délégué général aux questions d'agronomique, de me souvenir du témoignage qu'il nous avait livré à Vincent Duclerc et à moi lorsque nous travaillions sur ces questions, où il expliquait qu'une de ses forces avait été pour l'INRA d'aller négocier face à ce qui ne s'appelait pas Bercy à l'époque, mais la rue de Rivoli, c'est-à-dire face au ministère des Finances, et qu'il avait expliqué à l'INRA comment bien négocier un budget face aux finances, et que c'était aussi un des enjeux importants. Mais la particularité de l'agriculture, et vous avez commencé à le dire, c'est ce rapport spécifique à une partie de la société. Finalement, le développement de ces recherches agronomiques, on a commencé à parler de la question du rendement, mais quel a été l'impact sur le monde agricole français et son évolution ? Comment l'interaction s'est faite ? Parce qu'on est là sur un cas très particulier, mais tout à fait passionnant.
Je pense qu'il faut... on ne peut pas passer sous silence pour comprendre cette évolution. L'aspect un peu systémique entre ce développement de la recherche et les politiques publiques agricoles elles-mêmes. C'est-à-dire que dès 60 est voté un premier train législatif sur la modernisation de l'agriculture, les fameuses lois de 60 et 62. Et 60, alors on dit souvent les lois Pisani, ce qui est inexact, Pisani a porté la loi complémentaire de 62, et la loi de 60, en fait, c'est Michel Debré qui l'a véritablement portée, elle a été pilotée depuis Matignon, par Michel Debré lui-même et son conseiller qui était Jacques Dupont-Fauville. Et cette loi, ce premier grand train législatif de loi de modernisation de l'agriculture, est un peu un écho, écho en matière de politique publique à cette discussion sur la modernisation de l'agriculture appuyée sur la science. Et la loi de 60 comporte un grand volet sur la formation et notamment sur la mise en place des lycées agricoles. Elle prévoyait cette loi un lycée agricole public par département. On retrouve là d'ailleurs l'influence de Gilbert Martin dans cette affaire qui a été très importante. Et puis également sur un autre élément très important, sur l'organisation de ce que l'on appelait à l'époque la vulgarisation et qu'on a appelé après le développement. Les décrets ne sont sortis qu'en 1966, ce qui a été très important pour l'INRA parce qu'à partir de 1966, grâce à ce décret, il a été confié non plus ni au ministère ou à l'INRA l'organisation du transfert de la recherche et du partage des résultats de la recherche et de la diffusion de la recherche, mais à un dispositif de développement agricole qu'on a appelé de co-gestion entre les représentants de la profession agricole et les représentants de l'État pour assurer la diffusion et le partage de ces résultats de la science, qui a été une construction tout à fait originale. Mais vous voyez, tout ça s'est construit à peu près sur si on part de 56, puisque nous sommes en 56, 60 et 62, les grands débats sur la modernisation de l'agriculture, avec une convergence entre une partie des élites paysannes qui veulent cette modernisation, l'État qui le veut aussi, la société française qui attend une alimentation plus importante, moins chère, accessible, donc une vraie convergence en quelque sorte d'intérêts, et 1966, le développement, la vulgarisation confiée aux organisations professionnelles elles-mêmes.
Merci à vous deux, merci de ces éclairages apportés sur ces deux questions fortes, agronomie et santé. Merci.